Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La prix Nobel de littérature biélorusse, Svetlana Alexievitch, est convoquée cet après-midi par les autorités de la Biélorussie. Symbole de la pression qui s'accroît sur le mouvement de contestation dans le pays. Nous irons dans la région dans un instant. À suivre aussi le tour des régions françaises qui ont décidé de donner des masques aux collégiens et aux lycéens. Le gouvernement, lui, a tranché, ils ne seront pas gratuits. Alors que les masques, justement, seront obligatoires dans tout Marseille à partir de ce soir et pour un mois. Et puis, l'aide juridique des avocats sera-t-elle revalorisée? Il le demande en tout cas dans un rapport qui est remis aujourd'hui au garde des Sceaux. Et l'on commence donc avec cette attente, cette angoisse pour une prix Nobel de littérature. La Biélorusse Svetlana Alexievitch est convoquée à 15h dans les bureaux de la police de Minsk aujourd'hui. Elle doit y répondre des accusations de menaces contre la sécurité nationale, accusée en somme de s'opposer au président Loukachenko. Même si cela pourrait ne pas peser bien lourd, l'auteur de la supplication est soutenu par toute une partie du pays, Eric Biegala.
À l'école primaire, raconte Alena, la trentaine, on nous faisait lire ses livres, particulièrement celui sur Tchernobyl, la catastrophe nationale de l'URSS. Pour Roman également, lui aussi expatrié en Lituanie, Svetlana Alexievitch est une sorte de trésor national.
Elle représente la mémoire que nous devons garder en tant que nation de l'ancienne Union soviétique. Une mémoire que nous devons entretenir si nous voulons un avenir meilleur.
Le symbole que l'écrivaine représente est tel que nombre d'opposants, comme Natalia, la quarantaine, n'imaginent même pas que le régime puisse oser la mettre en prison.
Ce serait surprenant que Loukachenko s'en prenne à Svetlana Alexievitch. On sait qu'il est fou maintenant. Et s'il l'a fait arrêter, le monde entier comprendra à quel point c'est le fascisme qui règne dans notre pays. J'espère qu'elle n'aura que des sanctions. Mais tout est possible.
Hier, deux autres membres du conseil de coordination avaient été pareillement convoqués. Ils ont chacun été condamnés à 10 jours de rétention et immédiatement incarcéré.
Eric Biegala, accompagné de Gilles Gallinaro, envoyé spéciaux en Lituanie, près de la frontière avec la Biélorussie. Et nous reparlerons du pays dans les enjeux internationaux avec l'invité de Julie Gacon qui nous propose une plongée ethnologique en Biélorussie ce matin. C'est à 6h45, dans moins d'un quart d'heure. Masque obligatoire pour toute la ville de Marseille. La mesure entre en vigueur ce soir pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités souhaitent surtout empêcher les regroupements de jeunes. Les bars, les restaurants seront donc fermés de 23h à 6h du matin jusqu'au 30 septembre. À Marseille, où donc 100 000 habitants, 177 en moyenne sont testés positifs et c'est pour cela que le masque sera obligatoire. Sur 100 000 habitants dans le département des Bouches-du-Rhône, 131 habitants sont testés positifs en moyenne, 33 habitants sur 100 000 au niveau national. Des masques de plus en plus souvent obligatoires donc, et notamment au collège et au lycée. L'État toutefois n'en fournira pas gratuitement aux élèves, l'exécutif l'a précisé hier face aux demandes répétées de nombreux élus. Départements et régions vont pour certains prendre le relais en les distribuant d'ores et déjà, Sarah Tuchérer.
Sur les 13 régions de métropole, 4 ont à ce stade annoncé qu'elles fourniraient des masques à leurs lycéens. Carole Delga, en Occitanie, a été la première à réagir. Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse, en Ile-de-France et Renaud Muselier, dans la région Sud, lui ont emboîté le pas. Les offres se ressemblent, un ou deux masques en tissu pour chaque élève, pour permettre une rentrée dans de bonnes conditions sanitaires, sans que les familles n'aient à en supporter la charge financière. Les départements qui s'occupent des collèges ne sont pas en reste. Président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, s'apprête à équiper 88 000 élèves. Au passage, le socialiste n'oublie pas de tacler un exécutif qui, selon lui, ne prend pas ses responsabilités.
L'école dans notre pays est gratuite et obligatoire. Visiblement, le gouvernement l'oublie largement. Là, il s'agit d'une question de santé publique. Le masque, c'est la manière de se protéger collectivement. Comme les médicaments dits irremplaçables, ils devraient être pris en charge à hauteur de 100%.
Coût estimé 500 000 euros. L'État s'était engagé à prendre en charge la moitié du coût des achats de masques réalisés par les collectivités jusqu'au 1er juin dernier. Stéphane Troussel demande d'ores et déjà que cette nouvelle dotation soit elle aussi en partie remboursée. remboursés.
Et le Premier ministre Jean Castex répondra peut-être à cette question ce matin chez nos confrères de France Inter. Il s'adressera ensuite au patron en ouverture de l'université d'été du MEDEF ce midi à Longchamp. Après le masque, c'est la carte d'identité qui est demandée en Suisse. À Genève, les autorités relèvent leur niveau de vigilance face à la recrudescence des cas de Covid. Pour un meilleur traçage des malades et de leurs contacts, le canton de Genève oblige désormais tous les clients des bars et des restaurants à donner leur nom, leur date de naissance et leur numéro de téléphone. Jérémy Lange l'a constaté sur place.
Alors c'est très simple, nom, prénom, numéro de téléphone. Et donc ensuite, ça va vous envoyer un SMS avec un QR code. Et ce QR code, il va être valable dans tous les restaurants, tous les bars de Genève.
D'accord, ok. Déjà au fourneau et à la caisse, Victor Audry peut désormais ajouter technicien smartphone à son CV. Chez Hamburger Foundation, impossible en effet de commander sans avoir téléchargé un QR code. Il contient les noms, années de naissance et numéros de téléphone de chaque personne qui vient déjeuner.
De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'on est obligé de récolter toutes les données. Le plus important, c'est de faire un peu de pédagogie pour leur expliquer que c'est un système qui est beaucoup plus simple pour eux et pour nous. Et ça, contrairement à un formulaire papier, c'est beaucoup plus pratique.
Hier, facultatif, l'enregistrement pour les clients des bars et des restaurants est désormais une obligation, sans que ce soit perçu comme une contrainte par les professionnels. Johan Lemay est le patron du restaurant L'Éléphant dans la Canette.
Contrainte, pas vraiment, c'est assez simple à mettre en place. Après, ça nous permet de rester ouvert, ça nous permet de travailler, ça permet de rassurer les gens, je trouve ça très bien.
Alors que l'application nationale de traçage de contact peine à décoller, notamment à cause des craintes des utilisateurs pour la protection des données, ça ne semble pas être le cas pour le système appliqué au restaurant Genevois. Installé en terrasse, Stéphane et Mathieu n'y voient en tout cas aucun inconvénient.
Si on a contacté des gens avec du virus et tout, c'est normal qu'on prenne des précautions, c'est normal. Ça ne me dérange pas de donner mon téléphone en tout cas.
On est déjà localisé, scanné et suivi sur plusieurs applications, donc je pense que ça ne change pas grand-chose.
Seul le médecin cantonal peut accéder au listing. Ils sont systématiquement effacés après 14 jours sans contamination parmi les clients et le personnel des établissements.
Voilà pour les précautions prises contre le Covid-19. Mais que donnent les chiffres? L'Organisation mondiale de la santé note au niveau planétaire une diminution du nombre de nouveaux malades. Moins 4% en une semaine au niveau mondial, moins 12% pour les décès. Des données à prendre toutefois avec beaucoup de précautions, tant la situation varie selon les pays. Troisième soirée de manifestation dans le centre-ville de Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Des affrontements sporadiques ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Après que deux policiers ont tiré dans le dos d'un afro-américain, c'était dimanche. Jacob Blake, 29 ans, restera sans doute paralysé, c'est ce qu'a dit hier sa famille. Une grande marche contre les violences policières et pour l'égalité raciale est prévue à Washington vendredi. Des sacs de sable devant les portes, des fenêtres claquemurées, des évacuations par dizaines. Voilà le quotidien des habitants de la Louisiane et du sud du Texas en ce moment. Ils se préparent en fait à affronter l'ouragan Laura, dont les vents ultra-violents devraient toucher les côtes américaines dès ce soir. La météo en France métropolitaine, elle est beaucoup plus calme aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, vous l'entendrez dans un instant. Mais avant cela, nous nous penchons sur les revendications des avocats dans le pays. À 15h tout à l'heure, la commission Perben remet un rapport sur l'avenir de la profession. Rapport remis au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Selon les représentants des avocats, leurs conditions de travail actuelles sont-elles qu'elles nuisent aux citoyens, Thomas Larabi?
Oui, l'un des gestes les plus attendus concerne l'aide juridictionnelle, une aide de l'État qui paye les avocats quand leurs clients ont de faibles ressources, mais surtout une aide beaucoup trop faible, selon la présidente du Conseil national du barreau, Christiane Ferralschul.
Les missions d'aide juridictionnelle sont manifestement sous-payées. Je vous donne un exemple. Devant le tribunal correctionnel, vous arrivez à 256 euros. Qu'est-ce qu'on fait pour 256 euros? Il faut recevoir le client, consulter le dossier, préparer la plaidoirie, plaider le dossier, et il faut rendre compte au client. Donc, vous imaginez le temps que cela représente. Il y a une absence totale de prise en compte de ce que représente le travail de l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Avec comme conséquence possible à terme des avocats qui refuseraient de travailler pour l'aide juridictionnelle. Dans le même sens, Christiane Ferralschul espère qu'avec ce rapport, l'accent sera enfin mis sur les avocats de proximité, souvent oubliés ces dernières années.
Le combat pour les retraites a permis de révéler ce barreau de proximité, a mis en lumière un barreau qui est très proche du citoyen et qui gagne, oui, très mal sa vie. Mais ce sont des avocats extrêmement engagés. Et s'ils n'existaient pas, je peux vous dire que l'accès au droit l'accès à la justice n'existerait pas en France.
Et en ce sens, une mesure est fortement espérée, c'est l'application d'une TVA réduite à 10% sur les honoraires d'avocat.
Thomas Larabi pour France Culture. Je vous l'avais promise, voici la météo du jour ce mercredi. Le temps sera relativement ensoleillé après un voile nuageux prévu ce matin sur les régions du centre. La luminosité sera forte sur le sud-est avec 25 degrés à Nice et Perpignan, 21 à Biarritz, Lyon et Strasbourg, 18 degrés à Paris et Lille, 16 à Brest.